Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Franck Michel est auteur d'essais sur l'Asie et le voyage, ainsi qu'auteur enseignant nomade dans diverses structures en France et dans le monde. Anthropologue, Franck Michel travaille notamment sur les cultures et l'histoire de l'Asie du Sud-Est et décrypte l'état des mobilités contemporaines. Se consacrant essentiellement à l'écriture, à l'enseignement et au voyage, il a publié une vingtaine de livres et de nombreux articles. Dans cette deuxième émission Regarde ailleurs, j'ai voulu en savoir un peu plus sur la vision de Franck sur l'industrie du tourisme, notamment en Asie et à Bali.
On va s'intéresser maintenant aux voyageurs, on a parlé un peu du voyage, maintenant le voyageur. Il y a différents types de voyageurs, j'aimerais peut-être que tu me les énumères, comment est-ce que tu perçois les différentes catégories de voyageurs et l'impact que tu vois sur ces différentes manières de voyager.
J'en ai un peu parlé dans certains bouquins, notamment du Voyage des Hommes, là, qui est un bouquin voilà, où j'ai fait une somme un petit peu de ces réflexions-là. Mais je trouve que, déjà, d'emblée, je dirais qu'il faut se méfier un peu, parce que les routards, par exemple, sont les éclaireurs du tourisme de masse. Donc le touriste classique...
Ce sont les quoi, les éclaireurs ?
Les éclaireurs, hein, c'est simplement, ce sont ceux qui ouvrent les pistes, en fait, hein, du tourisme de masse. Hein, à tel point que tu as même un type comme Tony Wheeler, par exemple, le type qui a créé Lonely Planet, disait à un moment donné, oh, là, suivez pas trop nos conseils, parce que sinon, il y a tout le monde qui va y aller, quoi. Donc le type, il vend des guides de voyage, et en même temps, il dit, faites gaffe, ne les achetez pas tous en même temps, en fait, parce que vous allez faire des conneries. C'est ce qui arrive dans des endroits comme Vangien, par exemple, au Laos, ou plein d'autres endroits où, en fait, où il y a des communautés de routards qui se réunissent et qui font énormément de dégâts. Hein, c'est valable dans nos endroits, etc. Et donc tout ça pour dire qu'il faut relativiser. Et moi, souvent, dans certains bouquins, j'explique que je m'attirais entre touristes et voyageurs. Je m'attirais exprès, quoi, pour montrer que le touriste, c'est un voyageur, le voyageur est un touriste, et que c'est un peu plus compliqué que ça. Le touriste, c'est toujours l'autre. Hein, c'est que je pense que ça t'est déjà arrivé aussi à tout le monde, hein, à chacun, quoi. C'est quand on est quelque part, oh là, il y a des touristes là-bas, putain, attends, je vois des touristes, je veux pas être avec eux, enfin tout ça, je veux pas les voir, je parle pas français, je les connais pas, enfin tout ce qu'on voudra, quoi. Et ça, c'est un peu le problème, c'est que le touriste, c'est toujours l'autre. Et je pense de la même manière pour l'anthropologue d'ailleurs. Donc j'ai écrit un truc qui plaît pas forcément aux anthropologues, évidemment, qui essaient de défendre leur précaré, hein, comme souvent les universitaires savent le faire. Et donc, ce que j'en vois, c'est que, où j'explique, d'ailleurs dans la préface d'une de mes thèses, j'écris que le touriste, l'anthropologue, c'est d'abord un touriste. Parce qu'avant d'être anthropologue, il a été touriste, à un moment donné, il est bien arrivé quelque part, il connaissait personne. Enfin, c'est bien arrivé à un moment donné. Quand on va chez les papous, par exemple, à un moment donné, tu arrives pas, t'es avec la science infuse. Hein, tu arrives et tu découvres doucement, comme un touriste finalement, un peu avisé, évidemment. Mais tu commences à t'intéresser, et puis tu commences à apprendre. Et finalement, c'est ça que j'aime bien rappeler un peu aux universitaires, mais aussi aux touristes, c'est que quand on arrive quelque part, on est tous pareils. On est tous avec des ivoiriens blancs. Par exemple, si on arrive en fin fond d'une ethnie papoue, par exemple, on est d'abord un occidental qui débarque et ils ne vont pas faire la différence entre un anthropologue ou un touriste ou un cuisinier et un sociologue. Quoi. Enfin, c'est exactement pareil. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce regard-là aussi. Ça, c'est juste pour un petit peu modérer toi, cette distinction qu'on fait tout le temps. Après, tu as des gens comme Jacques Meunier, par exemple, qui a écrit des bouquins super sympas sur le voyage, qui a fait des distinctions assez sympas sur le voyage. Et je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, on peut faire une distinction. Mais je me méfie énormément. J'ai pas mal écrit sur le routard ou le backpacker, par exemple. Mais après, je suis un peu contre les classifications trop... Même si j'en ai fait aussi, parce qu'à un moment, il faut expliquer. Bon, voilà, c'est le boulot de l'anthropologue. Il faut expliquer des choses, il faut essayer de distinguer, il faut essayer de classifier, etc. Toi. Mais en même temps, je crois qu'il faut vraiment se méfier de ça.
Sortir des cases, pas être trop dans le côté normé, quoi.
Ben oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'un type, il est backpacker l'après-midi, et le matin, il est touriste culturel parce qu'il va voir les musées. Le soir, il va être touriste de pub parce qu'il va se bourrer la gueule avec ses copains. Et voilà, et qui sait, même peut-être à 2h du matin, il va peut-être devenir glauque et devenir touriste sexuel, quoi. On n'en sait rien, toi, je veux dire. Donc à un moment donné, on est parfois dans des... En une journée, on fait 4 ou 5 types de tourisme ou de voyages différents. Et c'est ça aussi qui est problématique. Aujourd'hui, c'est terminé le voyage d'antan, quoi. Aujourd'hui, c'est tellement dans la connexion, on vit tellement dans la connexion, que enfin, c'est ce que j'aime bien rappeler à mes étudiants, c'est que quelque part, c'est facile aujourd'hui de partir 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois même. Il y en a beaucoup plus qui partent aujourd'hui, à la limite, qu'à l'époque. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que combien d'entre nous, on doit en connaître, partent 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an et demi en voyage, et sont tout le temps connectés avec chez eux à la maison. Donc en fait, c'est pas tellement un exploit. Hein, c'est quand même, à la limite, c'était il y a 50 ans que c'était un exploit. Ou même il y a 30 ans, même pas la peine d'être trop loin. Hein. Je veux dire, il y a 30 ans, c'était, enfin, je vais pas faire le vieux ringard, mais c'est quand même, quand on partait, on savait pas trop si on revenait, ni comment, ni quand, ni avec quoi, ni avec qui, enfin, etc. C'était quand même un peu différent. Et ça, on oublie un petit peu de le dire, ça. Et donc, je trouve qu'il y a un truc qui devient un peu insupportable, c'est cette profusion absolument délirante de blogs sur le voyage, avec énormément de choses absolument inintéressantes. Heureusement, il y a plein de petites pépites au milieu hein, qui sont très intéressantes aussi, hein, heureusement, toi, avec des gens qui prennent un angle particulier, très intéressant, qui peut être soit la photo, soit la vidéo, soit le texte, soit la BD, enfin, soit plein de choses, quoi. Mais il y en a plein que c'est vraiment dans le genre, voilà, il est 7h, je monte ma tente, il fait froid, enfin voilà, et puis c'est pareil dans la littérature, hein, littérature de voyage, elle est quand même pas très intéressante, très souvent, quoi. Heureusement, une fois plus, il y a des choses très intéressantes qui ressurgissent, à gauche, à droite, mais globalement, c'est devenu un mode d'exister, un mode de se rassurer hein, dans notre société, un petit peu aussi. Pour des jeunes, c'est des rites de passage, en fait. Hein, le voyage, il ne faut pas l'oublier, quoi. Et je pense que c'est plutôt bien dans ce centre-là. Moi, je sais que les Master 2, souvent, j'ai intervenu un petit peu là-dedans pour les mettre, pour les faire partir et faire des stages à l'étranger, puis après, qu'ils fassent un peu un break pour partir faire un gros voyage. Et je pense que c'est très important, c'est à un moment donné, de faire un peu le bilan quoi, aussi quand on fait des études. Et je crois que ça, c'est une partie qui est très importante.
Mais le voyage, finalement, c'est un privilège, parce que très peu de gens peuvent voyager si on prend la planète, l'humanité, sur les 6 milliards d'hommes. C'est un luxe, le voyage.
Il semblerait quand même qu'on soit à peine 5% de la population qui voyage véritablement. Hein. Et donc, sur ces 5%, évidemment, ça veut tout dire, hein. C'est vraiment, vraiment des privilégiés. Ça aussi, c'est très bien de le rappeler, justement. J'aime bien le rappeler, d'ailleurs, aussi. Parce que dire que, le par exemple, c'est comme dire le tourisme s'est démocratisé. Ce qui est de moins en moins vrai. C'était vrai un petit peu... Rappelle-toi, le Club Med et tous ces trucs-là se sont développés. Voilà, on était un peu dans ce fantasme de la démocratisation du tourisme, des loisirs, etc. Certes, ça a eu lieu parmi les classes moyennes, des pays riches, hein, pour aller vite. Mais faut arrêter de dire des conneries quoi. Le tourisme c'est absolument pas démocratisé. Il se démocratise de moins en moins. Aujourd'hui par exemple, si tu fais un petit peu une étude un peu plus sérieuse sur les gens qui voyagent, les Européens par exemple, les Français par exemple, je veux dire de moins en moins de Français qui vont voyager loin. Alors une des raisons évidemment, comme ils sont un peu chauvins, ils vont dire qu'ils ont le plus beau pays du monde et que c'est le plus grand pays touristique du monde. Et ils n'ont pas tout fait tort parce qu'il est quand même assez beau, c'est super beau leur pays. Mais bon, c'est un peu court comme raisonnement. Et après, la deuxième chose, c'est quand même que qu'est-ce qu'on voit qui voyage en termes de Français au bout du monde, je le vois bien à Bali, par exemple, hein, quand je les vois débarquer, c'est les riches. Alors, ils voyagent de plus en plus. Hein. Eux, on les voit de plus en plus partout, parce que le tourisme de luxe, c'est ce qui a le vent en poupe aujourd'hui, comme catégorie de touristes. Et les routards, et les jeunes, donc dans leur rite de passage, etc. Parce que c'est important pour leur CV, c'est beaucoup mieux qu'avant, etc. Donc ça a beaucoup évolué. Donc c'est les jeunes sans dessous, pour aller vite, qui font leurs épreuves. Et puis les riches. Et en fait, les classes moyennes, de moins en moins. Et ça, c'est intéressant aussi à observer. Donc aujourd'hui, qui sont les classes moyennes qui voyagent à Bali? C'est pas les Européens, c'est les Chinois. Et c'est ça aussi qui a beaucoup changé, et qui exaspère d'ailleurs un petit peu les Européens qui sont dans leur fantasme de perte de gloire, quoi. Ça les aide pas, quoi. Et ça, c'est intéressant à analyser un petit peu, hein, dans le cadre du voyage. Je reviens juste sur le tourisme de luxe, qui est effectivement celui qui a beaucoup d'avenir, parce qu'il y a plus en plus de misère à peu près partout sur la planète, et de conflits, etc., et des problèmes de migrants, comme on sait. Mais en même temps, il y a plus en plus de gens qui ont de l'argent et qui voyagent. Et ceux qui ont de l'argent voyagent de plus en plus. Et ça, c'est très intéressant, et c'est très arrogant aussi en même temps. Donc le tourisme enclavé est de nouveau de l'avenir, etc. Et ce qui est intéressant à voir par rapport à ça, c'est que moi, c'est ce que j'appelle toujours un peu les trois niches que je trouve malheureusement très en vogue aujourd'hui, c'est le tourisme des seniors. Donc à côté du tourisme, donc tu as le tourisme de luxe, comme je disais, mais tu as aussi le tourisme des seniors pour être poli. Donc, voilà.
C'est quoi? C'est les croisières, c'est les voyages en bus.
C'est tous les retraités des pays riches qui ont du temps et du fric, quoi. Et c'est la clientèle par excellence qu'il faut attirer. Et aujourd'hui, comme tu le sais aussi, je parle de Malaisie, enfin plein d'endroits, font des visas spéciaux pour les vieux pour qu'ils s'installent là-bas, quoi. Hein, combien de Français vont s'installer ailleurs parce qu'ils n'ont plus envie de vivre leur retraite en France, par exemple. Et donc ça aussi, c'est intéressant. Mais ça, c'est un mélange, c'est pas pareil d'expatriation, mais c'est intéressant de voir ce tourisme de seniors, ce tourisme de luxe. Et puis le troisième, si là non plus, il n'est pas très glorieux, quoi. C'est un peu le tourisme de shopping, quoi. Le tourisme, j'appelle ça comme ça, mais c'est un peu le tourisme simplement qui est vraiment lié à la consommation, quoi. Les gens, les Brésiliens par exemple, toi, ils vont passer une semaine ou cinq jours à Miami, quoi. C'est eux qui vont. Les Brésiliens sont les touristes au monde qui dépensent le plus d'argent par habitant, quoi, quand ils voyagent. Et alors ça, à mon avis, ça s'est un peu calmé depuis un an, depuis qu'il y a la crise chez eux aussi. Mais ça montre aussi l'état d'esprit, quoi. C'est que les pays émergents, les BRICS, là, ben, ce sont eux qui dépensent le plus d'argent quand ils voyagent. Ça va changer parce qu'ils vont aussi connaître des problèmes en termes de pouvoir d'achat, mais quand même c'est intéressant de voir ces évolutions-là. C'est aujourd'hui le Français qui est en Asie, par exemple, est globalement vu comme un radin, quoi. Hein, comme un type qui donne des leçons et qui est un peu radin. C'est pas très 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 cool, hein, comme image. Hein.
Français à l'étranger. Je disais râleur, donc ça c'est quelque chose d'assez généralisé, mais comment est-ce qu'on nous perçoit à l'étranger ? Ah bon. Notamment en Asie peut-être, parce qu'on parle plus de l'Asie.
Je ne vais pas dire trop de mal non plus, mais c'est vrai que c'est quand même assez intéressant parce qu'en termes de. Pour les touristes, hein, pour les voyageurs, hein, c'est encore différent des expatriés. On va dire les voyageurs et les touristes, c'est vrai qu'ils sont quand même perçus comme étant des gens. Le bon côté. Le bon côté, c'est. Bah, c'est quand même, ouais, c'est cultivé, ils s'intéressent à la culture, voilà. Ça c'est le bon côté, à peu près global, d'ailleurs pas toujours justifié, hein. Pas toujours justifié, mais quand même faut dire assez souvent, quoi. Toi, c'est quand même quelque chose qu'on rencontre souvent, c'est le côté vraiment assez sympa, c'est que voilà, c'est des gens qui sont cultivés, qui s'intéressent à la culture, qui sont contents de voir des danses, de la musique, etc., des choses comme ça. Ça c'est pas mal. Après, tout le côté plus négatif, qui est quand même assez important et malheureusement qui tend à se développer, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que les problèmes qu'il y a en France dans notre société, de repli, de frilosité, etc. Bah, on les emmène dans nos bagages, quoi. Et les touristes qui partent, ils emmènent ça dans leur bagage. Et donc, quelque part, qu'est-ce qu'on constate quand on est au bout du monde, c'est ce côté prétentieux, donneur de leçons, voilà, d'expliquer toujours, de mieux comprendre que tout le monde, quoi. Et puis, comme on disait un petit peu, des gens qui sont toujours près de leur sous, quoi, hein, qui sont pas très généreux, un peu radins, et aussi cette arrogance, un peu, voilà, l'arrogance, c'est quelque chose qui, toi l'exemple, moi, je connais des gens sur des îles en Indonésie orientale, des gens qui sont guides francophones, bah, qui me disent, tu vois, nous, on n'a pas beaucoup de clients francophones, mais même si on préfère, on parle pas bien anglais, on est les seuls qui parlent français, il n'y en a pas beaucoup ici, des guides, mais préfère être avec des Australiens qu'avec des Français, quoi. Parce que les Australiens, ils sont pas très intello, mais souvent, ben, ils sont pas radins, ils nous payent des bières, ils sont sympas, ils aiment bien faire jouer de la musique avec nous, ils rigolent, enfin, on s'éclate avec eux, quoi. Les Français, c'est tristouné, et c'est pas toujours très très agréable. Ça, c'est par exemple, c'est un exemple. Et puis, il y en a même d'autres qui me disent sur les mêmes îles, ben, nous maintenant, on est guide francophone, on adore ça, mais on prend plus de Français, on prend plus que des Belges, des Québécois et des Suisses. Et ça, c'est intéressant parce que c'est, alors, j'aurais dit comme d'habitude, c'est les petits pays francophones ont moins la grosse tête, quoi. Donc voilà, et puis ils n'ont pas le fantasme de l'empire déchu, etc., quoi, que les Français ont et malheureusement renvoient à l'étranger, quoi.
J'aimerais aussi que tu me parles un petit peu de l'impact du tourisme sur les pays en développement ou même sur les pays d'une manière générale. Parce qu'il y a plusieurs labels aujourd'hui qui se montent. On parle de tourisme équitable, solidaire, donc ça s'oppose sûrement à un tourisme de masse. Enfin, quel a été l'impact ou quel est aujourd'hui l'impact de ce tourisme-là?
Ça, c'est vraiment justement le cœur, enfin, on va dire le cœur de mon travail d'anthropologue. En fait, hein. C'est là sur quoi je travaillais le plus, c'était justement sur l'impact du tourisme international dans les pays du Sud. Hein. Ça, c'est vraiment au niveau de... C'est un peu le boulot, quoi. Et puis, là, effectivement, cet impact, c'est toujours pareil. C'est que j'aime bien citer un proverbe asiatique pour résumer la situation. C'est que le tourisme, il peut faire... Il te donne à manger dans ta gamelle pour ta famille et en même temps il peut brûler ta maison quoi. Donc c'est un peu ça quoi. Il te donne à manger pour ta famille et en même temps il peut contribuer le lendemain à brûler ta maison. C'est tout le problème du tourisme, de l'ambivalence du tourisme. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse simple. Alors, je ne vais pas faire une réponse de Normand, mais en même temps c'est pour ça que c'est un peu énervant parce que les gens ils aiment bien une réponse toute faite. Hein. Tu sais, c'est un peu notre conception du oui et non, là. On n'arrive pas à être au milieu. Nous, toi. C'est là aussi, il faudrait s'inspirer de l'Asie un petit peu. Et c'est que le tourisme, c'est pas bon ou mauvais. Quoi. C'est du cas par cas. C'est que du cas par cas. Chaque village Hmong au nord du Vietnam va avoir un autre rapport à la présence touristique. Et il y a un village où ce sera bien, parce qu'ils arrivent à bien gérer, parce que le chef du village gère bien, parce que les gens du village sont mis ensemble, parce qu'ils ont mis, je sais pas, ils ont décidé de prendre des touristes, tout le monde de manière équitable, de faire attention à ce qu'ils font, de ne pas faire n'importe quoi, etc. Et puis le village à côté va gérer ça de manière complètement chaotique et les touristes font n'importe quoi et voilà et puis il y a des familles qui vont vendre leur gamine et n'importe quoi, tout sera possible. Pour montrer que le meilleur et le pire sont en permanence possibles presque dans les mêmes endroits. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Et je pense que c'est que la démagogie de dire des réponses toutes faites par rapport au tourisme c'est bien ou c'est pas bien, au tourisme durable c'est bien ou pas bien. Durable, soutenable, responsable, tout ça c'est des mots galvaudés à souhait, quoi. C'est bon. Ouais. Moi, j'ai vu ça, mais j'ai fait des études dans le tourisme durable pendant des années, quoi. Donc je vois comment ça a été servi et à la soupe, quoi. Par contre, il ne faut pas non plus négliger que ça a un sens. Ça veut dire à la base. Après, il ne faut pas se faire non plus trop d'illusions. Je pense que le tourisme, il y a des endroits, une fois plus, si les acteurs de ce tourisme-là sont responsables eux-mêmes, si les gens ont envie de faire quelque chose en commun, on peut encore faire des choses bien. Mais ça devient assez compliqué. Je veux dire, parce que là aussi, par exemple, là où j'habite à Bali, il y a des choses qui se font vraiment de manière bien. Parce qu'il y a une résilience et une résistance très forte de la part des Balinais. Mais en même temps, il y a des choses qui sont irrémédiables. Et notamment, on parlait du réchauffement climatique tout à l'heure. L'exemple, c'est la pollution, les déchets. C'est sur une île qui est grande comme deux tiers de la Corse, où il y a 4 millions d'habitants et 5 millions de touristes par an. Enfin, c'est un peu du délire, quoi. C'est que comment veux-tu que ce soit propre, il y a du plastique partout. Donc le Français qui arrive, c'est le premier truc qu'il dit, oh, c'est dégueulasse ici. Bon. Alors au-delà du fait qu'il râle, c'est qu'il a un peu raison, c'est qu'il a un peu raison aussi. Et le problème, c'est que même si la résilience culturelle, par exemple, toi, c'est sur le plan culturel, social, les gens arrivent à tenir parce qu'ils ont vraiment une force de la culture balinaise, en fait, par exemple, qui tient beaucoup de choses. Ben, ça ne suffit pas. C'est, le pays va quand même, sur le plan géographique, si tu veux, sur le plan des paysages, etc., tout va être abîmé. Parce qu'à un moment donné, même s'il y a de la résistance, et c'est ça qui est très inquiétant. C'est que même là où ça se passe, entre guillemets, bien, parce que les gens arrivent à gérer encore, et c'est plutôt un bon exemple à Bali pour ça. Ben, malgré ça, je suis quand même pessimiste. Parce qu'il y a d'autres effets, comme l'écologie, qui sont irrémédiables. Absolument, sur l'environnement, tu peux rien faire. Quoi. À partir du moment où il n'y a plus rien, je veux dire, dans le sud de Bali, les plages sont polluées. Je veux dire, bon, ils n'ont pas le droit de le dire, mais bon, ils n'ont pas le droit de le dire, parce que sinon les touristes ne viennent plus. Mais je veux dire, si un type fait du surf tous les jours, toutes les semaines, il va avoir un médecin, quoi, pour voir ce qu'il a comme merde dans le sang. Quoi. Donc ça, c'est pour expliquer un petit peu des choses aussi qui expliquent que c'est difficile de faire un marche arrière une fois qu'on a détruit beaucoup de choses. Et ça, c'est un peu le problème du tourisme, c'est que malheureusement, l'industrie du tourisme, y compris celle qui est durable, se disant, hein, c'est parti au moment où un village il ne sert plus, il est pourri ou fini, et ben on va voir le village plus loin. Et c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est du jetable et ça marche pas comme ça, quoi. Et c'est là, contre ça que je me bats un petit peu, évidemment. Et enfin, je pense beaucoup d'anthropologues d'ailleurs, c'est qu'on ne peut pas être d'accord avec cette manière de fonctionner, très consumériste justement, du voyage. Et c'est pour ça que je pense qu'à partir du moment, si ce n'est pas un tourisme qui est entièrement géré par les autochtones, qui s'approprie entièrement les outils, aussi. Hein, ils ont compris les outils d'organisation, de formation, etc. Toi. Internet aussi, enfin tout. Et qui ne délèguent pas ça à des gens d'extérieur. Donc il faut vraiment arriver sur du local. Là, je reviens à la limite. Hein, c'est pareil en Ardèche qu'au fin fond de Bali, hein, ce que je dis. Hein, donc c'est pareil partout. Hein, on revient sur le local, sur le micro, les micro-projets, etc.
Comment faire pour que les locaux puissent s'approprier le tourisme? Ça nécessite peut-être des compétences, des connaissances.
S'il n'y a pas d'envie, il ne faut pas le faire. Hein. S'il faut qu'il y ait une envie locale, il faut qu'il y ait et pas seulement un besoin. Hein. Parce que le besoin, c'est un autre problème. Il faut qu'il y ait une réelle envie. Et cette envie-là ne peut pas être, par exemple, sollicitée uniquement par l'extérieur. C'est-à-dire, combien de fois on a vu ça avec des ONG ou des gens sympas qui veulent faire des trucs bien parce qu'ils adorent l'endroit, et qui viennent et disent « Ah, il faut vraiment qu'ils fassent un truc ici. » Puis en fait, les gens n'ont pas envie. Ça, c'est des exemples qu'on a souvent. Quoi. Après, il y a aussi, parfois, on peut aider et soutenir. Ça, c'est autre chose. Toi. On est bien d'accord. Dans le bon sens, c'est possible. Mais avec modestie et avec sans viser utilitariste ou égoïste derrière. Mais je pense que c'est toujours fragile. Quoi. Hein, on a vu avec quelques ONG ou quelques tour opérateurs alternatifs qui sont plantés la gueule quand même. Ça arrive. Et je veux dire, c'est vrai que des moments donnés, on est déçu quoi, parce qu'on se dit... Parce que l'être humain aussi, il est limite hein, parfois. Hein. Donc, si vous allez dans un village africain ou dans un village cambodgien, parce que moi, ça m'arrive parfois justement de superviser des projets comme ça qui se mettent en place. Et je vois comment, dans certains villages, si tout se passe bien, tout le monde est d'accord autour de la table pendant les premiers mois, les 5 premiers mois, la première année. Puis après, d'un seul coup, il y a une famille qui fait plus d'argent que l'autre famille. Et l'autre famille va commencer à faire la gueule, et puis ça va créer de la compétition et de la concurrence, et d'un seul coup, les voisins ne se parlent plus. Et j'ai vu des situations comme ça. Et pourtant, les gens qui étaient à la base du truc sont très bien, mais à un moment donné, ça peut créer de la jalousie, tout simplement, parce que c'est sentiment humain, hein. Et malheureusement. Mais ça crée parfois des problèmes plus graves, des gens qui ne se parlent plus du tout. Moi, j'ai vu des situations comme ça, je sais pas, un village vietnamien, par exemple, dans les montagnes, des Français qui passaient. Des touristes un peu âgés comme ça qui disaient nous on est bien, on donne pas des choses aux gens, on a compris que c'est pas bien, faut jamais donner de l'argent. Je dis très bien, c'est très bien, mais on donne des ballons, des petits ballons soufflés dedans. Je dis ça c'est pas méchant. Ça dépend, c'est parce que vous allez partir dans demain, vous partez, vous voyez pas ce qui se passe. Et effectivement, je donnais l'exemple que j'ai déjà vu là-bas. C'est par exemple une grand-mère avait reçu un ballon, une grand-mère, c'est même pas un enfant, et puis le voisin il en a pas eu. Dès que les touristes sont partis, le lendemain, parce que moi parfois je reste sur place, c'est mon boulot quand même. Donc du coup, qu'est-ce que je vois? Voilà, ils se font la gueule. Ouais, t'as eu le ballon, j'en ai pas eu. Ça. Pour des trucs complètement. Vraiment des conneries quoi. Mais ça crée des choses qu'on n'a pas idée quoi. Moi je le vois aussi, moi je développe un projet de bibliothèque là où j'habite, hein, donc dans le village où j'habite à Bali. Et donc ça fait des années que voilà, les gens, les touristes qui viennent, qui veulent soutenir le projet que j'ai mis en place, hein, qui est une bibliothèque municipale en fait, là où je suis, quoi, en milieu rural et montagnard. Quoi. Et ils veulent aider, donc c'est sympa, toi, ça part toujours d'une bonne intention, hein, on veut sauver le monde et tout ça, et des enfants, ça marche bien. Quoi. Et donc ils viennent avec, au début ils venaient avec des stylos, des cahiers et tout. Les gens, ils en ont marre, quoi, des stylos, quoi. Je veux dire, à un moment donné, les stylos sont partis dans la terre, partout. Donc ça fait des années que je dis qu'il faut arrêter d'emmener des stylos. Ils disent tous, ah, mais les stylos, c'est quand même beaucoup mieux que les bonbons. Oui, c'est beaucoup mieux que les bonbons. C'est mieux que l'argent, c'est mieux que... Mais il faut arrêter aussi avec ça. C'est qu'à un moment donné, là, en ce moment, moi, j'essaie de récupérer des livres, donc des livres en indonésien. Donc ils achètent des bouquins en indonésien, ça va dans les bibliothèques, c'est du concret, quoi. C'est un truc qu'ils peuvent utiliser, quoi. Mais il faut arrêter avec cette overdose de bonne conscience. Tu vois, c'est un peu la bonne conscience, le sanglot de l'homme blanc. Hein, voilà. On est toujours dans les mêmes choses. Quoi. Et ça, c'est pas évident parce que les gens ont tellement envie d'aider, hein, ont tellement envie de faire du bien qu'ils font beaucoup de mal. Quoi. Tu vois, c'est le problème, quoi, en fait.
Et j'ai entendu dire, ça m'intéresserait que tu me parles un petit peu de ce sujet-là, on a toujours des bonnes intentions, hein, donc faire le bien. Et souvent, on pense qu'en voyageant de manière indépendante et seule, on va avoir un impact qui est bien moindre que le voyageur de groupe. Et a priori, dans certains peuples, certaines ethnies, c'est hyper emmerdant de voir un mec, un backpacker, s'arriver tout seul.
Bien sûr, ça c'est justement un des exemples justement qui est intéressant où le touriste et le voyageur, si tu veux, soit le touriste organisé et le voyageur indépendant, ben, c'est plus compliqué que ça la différence. C'est que par exemple, parfois, le voyageur organisé, notamment dans les petits groupes de trek, par exemple, parfois quand c'est bien fait, quand c'est bien pensé, quand c'est avec un guide local qui parle la langue locale, tu vois, avec donc des guides qui sont vraiment sur place, qui font le lien avec la population, qui répartissent par exemple les recettes, qui arrivent à savoir, tiens, chez lui on va manger, chez lui on va faire la balade, chez lui on va faire ça, etc. Tu vois. Et là, du coup, tout le monde est content, parce que tout le monde est dans une certaine cohérence, il n'y a pas de jalousie, il y a plutôt de l'entraide, tu vois, au sein du village, de la solidarité, etc. Alors que, quand c'est bien fait, hein, quand je parle bien, et alors que quand un type vient tout seul, moi je l'ai vu une fois plus dans des villages, voilà, dans pas mal de villages, quoi, en Asie notamment, c'est que ça crée un problème, comment est-ce qu'on fait pour le gérer celui-là? Et là, le problème, c'est que, c'est une fois plus, ça dépend du voyageur. C'est que le voyageur, soit il va se comportera bien, soit il ne se comportera pas bien. Une fois plus, c'est pas parce que le type, c'est forcément un mec bien ou un mec pas bien. Moi, j'ai vu une quantité de types qui sont super bien quand tu les vois au bistrot à Strasbourg. Quand tu les vois, les mêmes, dans le village, comment ils se comportent, ils sont complètement différents. C'est les vrais enfoirés, quoi. C'est quand même bizarre, quoi. Alors que le type était très bien sur place. Il y a des gens que j'ai briefés comme ça. Ça m'est arrivé assez souvent, parce que même en formant des... Je fais pas mal d'éducation voyage, choses comme ça aussi. Donc je vois comment... En essayant de briefer des gens avant d'aller voir des situations un peu complexes comme des chamans ou des papous ou d'autres gens, voilà, des situations un peu difficiles sur le plan de l'altérité, avec une altérité radicale, tu vois. Et ben, je veux dire, les gens, ils sont dans la tête, ils sont vraiment prêts, ils sont vraiment prêts d'être ouverts et tout, et dans la réalité, ils n'y arrivent pas. Et à d'autres gens, c'est exactement l'inverse. Donc ce qui m'est arrivé, c'était des gens qui partent comme ça, qui, je les vois dans l'avion, je dis oh là là, ça va être la catastrophe. Vu comment la fille, par exemple, se comporte, très bourgeoise, en train de se faire les ongles, etc. Enfin, des trucs absolument délirants, je me dis, comment va faire dans la forêt et tout. Elle était géniale. Elle vivait avec les femmes locales, très très proches, sans aucun problème. Et ça, c'est très intéressant. Donc, on voit comment, parfois, même on a beau être anthropologue, on ne peut pas savoir. On ne peut pas vraiment savoir ce qui va se passer sur place. Et c'est là où, en fait, une fois plus, le touriste qui ne se comporte pas bien, une fois plus, il ne le fait pas exprès. Il vient pas toujours avec des mauvaises intentions, évidemment, on est bien d'accord, quoi. Le routard, il vient plutôt avec, il essaie plutôt d'être sympa, mais souvent il l'est pas, et malheureusement il l'est pas parce qu'il va faire ce qu'il faut pas. Et combien de fois tu as eu des exemples tout bêtes, quoi, le type qui enlève pas les godasses quand il faut le faire, les types qui font pas les salutations qu'il faut faire, les types qui vont prendre la main gauche, enfin, plein de choses, quoi, toi, comme ça, toi, enfin, touche la tête des gamins, enfin, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils savent pas tout, quoi. C'est normal, on n'a pas tous les codes d'accès, quoi, par rapport à la culture de l'autre, quoi. Mais c'est là où, par exemple, le guide local, dans le cadre du voyage organisé, ben, ça fait un filtre. Il filtre, quoi. Hein, c'est un peu ce que moi je faisais quand j'étais guide conférencier. Ça permet de filtrer, toi. Tu peux briefer les gens et tu peux les prévenir et donc faire pour que la rencontre se passe de manière plus saine, peut-être moins authentique, dans certains cas, on est bien d'accord, mais plus saine. Alors là aussi, qu'est-ce qu'on cherche? Et c'est pour ça que le routard qui se comportera bien, qui va bien gérer la chose, ben ça reste toujours évidemment fantastique, c'est toujours une belle expérience, on est bien d'accord. Mais je pense que là aussi, s'il n'est pas armé de patience et d'humilité et de sagesse, hein, ce qui n'est pas évident, s'il n'est pas armé de ces trois choses, c'est difficile d'imaginer une rencontre qui soit vraiment bien, quoi. C'est un peu ça aussi.
Franck Michel, merci. Merci à toi.
Merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.